L'action de Jésus telle qu'elle nous est décrite dans l'évangile d'aujourd'hui ne ressemble absolument pas à une campagne électorale où chaque candidat promet monts et merveilles, tout ira mieux, les difficultés disparaîtront, la vie sera plus facile, plus heureuse. Jésus, en revanche, alors que de grandes foules faisaient route avec lui, au lieu de les flatter, semble les rabrouer. Si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. Celui qui ne porte pas sa croix pour marcher à ma suite ne peut pas être mon disciple. Le Seigneur ne vient pas pour flatter, mais pour exiger précisément parce qu'il est le Seigneur, parce qu'il est la vérité. Je suis le chemin, la vérité et la vie, lisons-nous dans l'évangile de Saint Jean. Et il met ceux qui le suivent face à leurs responsabilités. Il leur montre les vraies conditions du bonheur qu'il veut nous donner. Jésus ne nous promet pas de richesse, il nous veut pauvres. Nous l'avons vu hier, c'est la condition pour être comblé. La dureté de l'expression de l'évangile d'aujourd'hui peut heurter, d'autant plus qu'elle est utilisée par celui qui nous a donné son commandement, « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. » Le disciple est celui qui suit le maître. De grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit. Les disciples marchent avec Jésus qui les précède. Ils doivent, à sa suite, apprendre à devenir des hommes nouveaux. Suivre les traces du Maître, c'est être comme lui, penser comme lui, agir comme lui, c'est-à-dire entrer comme lui, avec lui, dans la relation au Père Céleste. Et comme lui, renoncer à tout amour possessif, à toute sécurité humaine pour cheminer avec lui sur le chemin de l'amour généreux, pour cheminer avec lui sur le chemin de l'amour généreux en s'appuyant seulement sur lui. Dans l'évangile de Saint Luc, immédiatement après ce passage, nous avons le chapitre sur les paraboles de la miséricorde, la brebis perdue, la drachme retrouvée, le fils prodigue. Ainsi donc, le Dieu qu'il nous faut aimer plus que tout et plus que lui-même est le Dieu d'amour, le Dieu qui est amour. C'est ce Dieu qui doit occuper la première place dans la vie du disciple. Et ce Dieu est le maître du temps et de l'histoire. C'est à lui que reviendra le dernier mot. C'est à lui qu'appartient le jugement. Et c'est la raison pour laquelle notre évangile se termine par un appel à la vertu de prudence, par une invitation au discernement. Celui qui veut construire une tour doit auparavant calculer son budget. Le roi qui part à la guerre doit prendre en compte le nombre de soldats dont il dispose avant de décider s'il prend les armes ou s'il négocie. Que pèsent nos vies que nous ne possédons que par participation face à celui qui est la vie? Que valent nos existences dont les événements nous montrent combien elles sont éphémères face à celui à qui appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles? Que vaut l'illusion de l'amour de soi face à la vérité de l'amour de Dieu? La conversion suppose un choix radical. Deux amours ont bâti deux cités, l'amour de soi jusqu'à l'oubli de Dieu. C'est la cité terrestre, écrivait saint Augustin. L'amour de Dieu jusqu'à l'oubli de soi, c'est la cité céleste. C'est cette cité que le Seigneur veut nous donner.